L'émission L'heure juste qui se poursuit, en fait, qui tire à sa fin. On est dans le tout dernier mille là, de cette émission en 2021. Émission qui reprendra assurément, rassurez-vous, en 2022. Mais bon, pour terminer, sur une belle note, j'aime l'appeler ainsi parce que je trouve que c'est un sujet qui est bien intéressant, même si c'est un sujet qui est un peu, vous allez voir, on va parler d'un meurtre et d'un meurtrier, mais c'est quand même, ça s'est passé il y a 70 ans de cela, on va en parler dans un instant. Mais pour vous mettre un peu, là, comment on a commencé, nous, à la radio CAGA, à se pencher sur cette histoire-là. Il y a un de nos journalistes, Francis Letourneau, qui regardait la télévision, les grands procès, cette série télévisée, et il se dit « Ah, mais il y a quelque chose qui s'est passé du côté de Lac-Sainte-Marie. » Il a écouté une des histoires qui portait sur le Tuxedo Kid. On va y revenir. Et là, on a commencé à fouiller, puis on s'est rendu compte justement de cette histoire qui s'est produite il y a de cela 70 ans du côté du Lac-Sainte-Marie. Et il y a un ouvrage qui a été réalisé à ce sujet. Et pour nous en parler, bien, on a nul autre que l'auteur de l'ouvrage de l'œuvre Tuxedo Kid au bout du fil, M. Raymond Ouimet. M. Ouimet, bonjour.
Bonjour.
Donc, vous êtes auteur de Tuxedo Kid, un livre que bien des gens ont lu dans la région parce que ça se passe dans la région. Mais malgré ça, quand on lit un livre, on s'approprie l'histoire. Mais je pense que les gens ne l'ont peut-être pas partagé dans leur entourage. Beaucoup de gens qui ne connaissaient pas l'histoire de cet homme qui a commis un meurtre pour lequel il a été reconnu coupable. On soupçonne un deuxième meurtre. On pourra y revenir tout à l'heure. D'entrée de jeu, M. Ouimet, je voulais savoir comment vous êtes, en quelque sorte, comment vous êtes devenu intéressé à cette histoire-là et que vous avez décidé de pondre quelque chose sur le sujet.
En fait, c'est que quand ma mère m'en avait souvent parlé, et c'est ce qui a, entre autres, motivé ma recherche sur ce personnage-là. Mais c'est aussi parce que j'ai vu à plusieurs reprises dans les statistiques, lesquelles d'ailleurs ne changent pas beaucoup, que la majorité de la population est toujours en faveur de la peine de mort. Alors, je me suis intéressé à quelques histoires de crimes, dont l'affaire Babin, puis ensuite l'affaire des crucifiés. Puis dans l'affaire des crucifiés, entre autres, j'ai un plaidoyer contre la peine de mort. Et c'est la même chose pour le Tuxedo Kid. Je pense qu'il y a d'autres façons de punir les gens que de les exécuter, parce que exécuter une personne qui a tué, c'est répéter le crime que la personne a commis. Je vois pas beaucoup de différence. C'est pas parce que l'État le fait que c'est moins pire que parce qu'une personne, un individu le fait. Mmh. Ensuite, surtout dans un milieu comme le nôtre, qui pendant longtemps s'est prétendu chrétien, catholique, faut pas oublier qu'il y a un des commandements qui dit tu ne tueras point. Et il n'y a pas d'exception. Le commandement ne dit pas si tu es tué l'État, tu as le droit de tuer. Il dit tu ne tueras point. Donc, je trouve que la peine de mort a toujours été quelque chose de barbare.
Parce que l'homme en question, qu'on surnomme Tuxedo Kid, parce qu'il était toujours bien vêtu lorsqu'il se présentait à ses procès, il a été pendu au début des années 50.
Oui, en fait, le 12 juin 1953, il était pendu à la prison de Bordeaux à Montréal.
Mm-hmm. Vous êtes en arrivé justement à écrire cet ouvrage-là sur Tuxedo Kid. Ça s'est produit, expliquez-nous un peu pour les gens qui ne connaissent pas cette histoire-là, expliquez-nous, parce que son vrai nom, c'est Réal Léo Bertrand, qui a été donc justement reconnu coupable d'un meurtre qui se serait passé.
Il y en a commis deux.
On suppose, là, c'est ça. Expliquez-nous l'histoire-là.
Premièrement, Léo Réal Bertrand, quand on étudie sa vie, on se rend compte que c'est un psychopathe. Aujourd'hui, on utilise plus le mot sociopathe, mais c'est la même chose. Il épouse une première femme en 1934 à Valleyfield qui s'appelait Rosanna Asselin. Lui, Bertrand, il est originaire de Saint-Polycarpe. Et il va en 1934, effectivement, la même année de son mariage, 10 mois plus tard, il va plonger son automobile au bout du quai de Saint-Zotique, dans les eaux du fleuve Saint-François, où son épouse va mourir noyée. Et comme par hasard, on va découvrir qu'elle ne pouvait pas ouvrir la portière pour se sortir de la voiture parce qu'il manquait la poignée de la portière. Malgré toutes les indications qui montraient que Bertrand était coupable, son avocat va réussir à semer le doute dans la tête du jury il va être innocenté de ce que moi, je suis pas mal convaincu a été un meurtre. Par la suite, il va y avoir d'autres démêlés avec la justice, entre autres à la suite d'un vol de banque raté à Rossud, en banlieue d'Ottawa, en Ontario. Puis, évidemment, il va rencontrer, c'est un homme à femme, il leur soutire ce qu'il a besoin. Pour lui, l'important dans la vie, c'est de devenir riche. Il savait, un psychopathe qui veut devenir riche, si une personne l'empêche d'atteindre son but, eh bien, il va se débarrasser de la personne simplement. Et il va donc rencontrer une femme après avoir servi plusieurs années en prison à cause du vol raté, du hold-up raté. Il va donc rencontrer à Ottawa une dame de 17 ans, son aînée, qui est veuve et qui possède des biens, dont deux grosses maisons à Ottawa, qui s'appelait, et ça, c'est, ça s'invente pas, là, son prénom, c'était Dolorosa. Douleur.
Ouais.
Et il va épouser cette femme-là, qui est de 17 ans, son aînée. Et il l'épouse en septembre 1951, le 7 septembre 51. Et le 10 novembre 1951, il va l'assassiner au lac Sainte-Marie, où il avait loué ce qu'on appelait à l'époque un camp de chasse. Il va donc avoir deux procès. Premier procès, d'ailleurs, il va avoir comme avocat Maître Jean Drapeau, hein, bien connu parce qu'il est devenu maire de la ville de Montréal. Et à cause de la mort du juge, eh bien, il va falloir avoir un deuxième procès. Et au deuxième procès, il va être condamné à être exécuté, c'est-à-dire pendu à la prison de Bordeaux à Montréal.
Ça fait 70 ans de ça aujourd'hui, donc 70 ans plus tard, vous avez depuis écrit votre roman et vous l'avez dit, c'était pour...
Mais là, c'est pas un roman. Hein?
Un ouvrage.
Sont exacts.
Oui, non, désolé, c'est ce que je... Oui, c'est ça, un ouvrage sur le sujet. Puis pourquoi cette histoire-là en particulier? Parce que des peines de mort, il y en a eu, là. Pourquoi cette histoire-là en particulier vous a attiré au point d'écrire?
Parce que le criminel est un personnage hors du commun. Mm-hmm. Vous savez, la plupart des crimes, on le voit le défiler jour après jour, se ressemblent et ne valent pas, souvent pas, la peine d'être racontés. Par contre, non, la petite fille qui est morte à Granby,
ouais,
dernièrement, et c'est sûr que c'est une histoire qui va rester là, dans notre mémoire. Aussi, c'est intéressant, Bertrand, c'est intéressant de parler du personnage et de montrer ce que c'est un psychopathe. Psychopathe, c'est pas toujours ce qu'on voit à la télévision, hein. On a souvent tendance à voir le psychopathe comme un personnage qui est toujours à l'affût du sang. Et c'est pas tout à fait ça. Un psychopathe, c'est quelqu'un qui a des objectifs et qui, pour les atteindre, va prendre tous les moyens possibles. Puis je vous ai donné un exemple. Lorsque des gens d'affaires vont congédier des centaines, voire des milliers de personnes, tout simplement pour augmenter la valeur de leur part dans une entreprise donnée, mais ça, c'est un comportement de psychopathe. Il faut savoir que dans notre société, ben, chez les hommes, il y a 2% de psychopathes et 1% chez les femmes. Et que donc ça veut dire qu'on a tous là quelque part alentour de nous un psychopathe.
C'est rassurant.
Mais les psychopathes ne tuent pas toujours. Hein?
Non, c'est ça.
S'ils atteignent leur fin, ils n'ont pas besoin de tuer. Mais pour un psychopathe, la personne qui va se le contrecarrer son chemin, c'est un peu comme nous tous devant une mouche qui nous achale. Hein? On va la tuer, la mouche. Puis on n'aura pas de remords.
Okay,
alors, le psychopathe n'a pas de remords quand il assassine quelqu'un.
Ben écoutez, merci d'avoir pris du temps avec nous pour nous raconter une histoire, même si elle s'est en partie passée chez nous au lac Sainte-Marie, ou du moins son dénouement, là. Ou en tout cas.
Et moi, j'aimerais faire appel à tous. Hein. Moi, je dirige une revue qui s'appelle Hier encore, qui sort une fois par année. D'ailleurs, le dernier numéro vient de sortir, et qui ne parle que du patrimoine et des archives de l'Outaouais. Mais malheureusement, je ne réussis jamais à obtenir des articles de la Haute-Gatineau. Mais ce serait intéressant que des gens nous soumettre des articles pour parler de leur coin de pays.
Ben écoutez, le message est passé. S'il y a quelqu'un qui saisit la balle au bon en espérant, ce sera tant mieux. On pourra faire voyager ça jusqu'ici et transmettre nos histoires aussi, là. Donc,
vous en ferez parvenir un exemplaire.
Ben écoutez, merci beaucoup. C'est généreux de votre part de nous avoir donné du temps aujourd'hui. Puis on aura peut-être la chance de se reparler. Puis peut-être que quelqu'un de chez nous va saisir la balle au bon puis entrera en contact avec vous là, pour ce qui est de la revue. Merci.
D'accord. Vous souhaitez un joyeux Noël à vous et à tous les gens de la Haute-Gatineau.
Dans la mesure du possible, merci beaucoup. Vous aussi.
Merci, au revoir.
C'est donc ainsi que prend fin l'émission L'heure juste d'aujourd'hui, dernière de la saison 2021. On se retrouve en janvier prochain. D'ici là, portez-vous bien, profitez du temps en famille, avec vos proches, reposez-vous, changez le mal de place, c'est ce que j'aime dire, parce qu'on est tous dans le même bateau. Espérons que ce soit notre dernier Noël qu'on passe comme ça, sous le signe des restrictions sanitaires. On se le souhaite, c'est un souhait qu'on fait pour 2022. Mais d'ici là, comme je disais, portez-vous bien et on se dit à l'année prochaine. Au revoir.